On a repris donc vos 7 questions. Il y a 7 questions qui ont été posées à travers les discussions de cette journée. Et on a tenté de, en fait, donner des premiers éléments de réponse, des pistes, et en fait plutôt d'ouvrir le débat et de vous proposer de construire les réponses. Alors, faudrait, Yana, tu prendras des notes sur ce qui est dit, parce que du coup, moi, quand je parle, j'ai du mal à prendre des notes en même temps. Et donc, la première question, elles sont pas du tout classées dans un ordre de pertinence, de construction, de déroulement de la journée. Elles sont juste classées dans la première que j'ai reçue, ça s'appelle la question 1. Et donc, la question, c'est quelle est la différence entre résolution de problèmes, recherche et démarche d'investigation? Bon, on peut dire que quand même, entre les formateurs, nous, on est étiquetés formateurs, là, pour nos 5 jours. Sur chaque question, on a discuté, ça nous a pris... Tout l'atelier pendant lequel vous travaillez, nous, on a réfléchi sur comment... Donc, il n'y a pas de réponse évidente, on n'a pas un truc crack, c'est ça. Donc, vous pouvez y aller à donner vos réponses, parce que les nôtres seront pas forcément plus pertinentes et plus directement une réponse que ce que vous proposerez. Hein.
Éventuellement, moi, pour moi, parce que on s'est posé la question au départ, pour moi, le mot démarche d'investigation, c'est juste un mot qui a été inventé, enfin une expression, disons, qui a été inventée dans les programmes pour chapeauter toutes les idées qui ont été mises derrière. C'est pas vraiment, pour moi, c'est une espèce de création pour essayer d'unifier les démarches qui peuvent être faites dans les différentes sciences. C'est pas forcément, c'est.
Notre avis.
Bon, donc
sur recherche, résolution de problèmes.
Et en tant que formateur, ça vous interpelle pas? Ah ouais.
Oui, à partir du moment où je pense qu'il y a recherche, c'est que l'élève a pas forcément la solution évidente sous la main, quoi. Je veux dire, donc il va être obligé de mettre en place un parcours, en tout cas, qui va l'amener à formuler un certain nombre d'hypothèses et puis à essayer de mettre en œuvre, en tout cas, des procédures qui vont lui permettre d'atteindre le résultat. Bon, mais c'est peut-être assez général. Après, dans la démarche d'investigation, il y a cette idée, en tout cas, institutionnelle dans Canva. En ce temps-là, qui me semble effectivement plus être, je dirais, l'ordre de la démarche dans la classe, c'est-à-dire un repérage des temps qui vont permettre de guider l'activité du professeur dans la classe. C'est-à-dire que ce découpage, en fait, ne sera pas peut-être toujours respecté. Je ne sais pas si d'ailleurs on peut mettre en... Enfin, c'est une question qu'on avait posée. Je ne sais pas s'il y a vraiment une parenté si grande entre les différentes disciplines de la démarche d'investigation. Hein. C'est pas. Enfin, et même dans le pilotage, même en science, il y a peut-être des moments qui seront pas forcément identifiés. Sur. C'était quoi l'autre mot là? C'était.
Recherche. Résolution de problèmes.
Dans la résolution de problèmes, je pense, moi, ce que je mettrais derrière, c'est peut-être la notion de situation-problème, c'est-à-dire cette idée qu'il y a forcément sous-jacent un obstacle qui va devoir être dépassé par les élèves, et le dépassement de l'obstacle va conduire finalement à... C'est là que se trouvent finalement les éléments de connaissance qu'il va devoir acquérir. C'est là ce que je vois là derrière.
Je peux essayer... Enfin, moi, mon interprétation, moi, il me semble que la situation problème est plutôt alliée à la démarche expérimentale et que la démarche d'investigation, elle recouvre un petit peu, parce que ces deux démarches se ressemblent, en mathématiques, donc la situation problème, et en physique, la démarche expérimentale. Par contre, la résolution de problème, ce serait simplement un problème qui n'est pas une situation aussi ouverte ni aussi vaste que la démarche d'investigation.
Je vous remets les
7
points là.
Oui, mais on a tous un peu cette impression, je crois, mais la question c'est qu'est-ce que ça veut dire moins ouvert entre les deux?
Moins ouvert.
J'ai toujours, ouais, qu'est-ce que ça veut dire moins ouvert? Qu'est-ce qui est moins ouvert entre un problème et... En plus, il y a ce mot démarche quand même qui... Je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui est plus qu'un seul problème, si ce n'est pas un truc sur plusieurs, un cycle, une espèce de... Enfin, c'est là la différence, non?
Ça veut dire que vous rapprochez démarche et situation.
La démarche expérimentale et la démarche d'investigation, je pense pas sont les mêmes en sciences. Je pense que dans la démarche d'investigation, il y a des moyens d'investigation qui sont pas forcément expérimentaux. Donc on est plus sur une démarche d'ordre scientifique, effectivement.
Donc une de nos premières réponses était pourquoi. En fait, il n'y a pas de nécessité de différencier, ou pourquoi on a envie de différencier ? Parce qu'il y a des vocabulaires différents, mais voilà, il y a des expressions différentes, mais à quel moment c'est utile de les différencier ? On a envie de dire, c'est pas forcément utile de vouloir le différencier. Vous pouvez être d'accord ou pas ? Que c'est une réponse à une contrainte institutionnelle. La démarche d'investigation, c'est... est-ce que c'est même pas un slogan ou quelque chose qui est dans les programmes ? Écrit comme ça, et maintenant, ça doit être la démarche d'investigation, mais est-ce que c'est vraiment... À quoi ça s'applique ? Qu'est-ce que ça apporte de plus que ce qui avait été dit avant dans la résolution de problèmes, dans la démarche scientifique, la démarche expérimentale ? Pour être un peu plus positif, parce que franchement, on était un peu, peut-être un peu coincés, c'est quand même l'idée d'attraper quelque chose de la pratique du chercheur. Et que c'était une façon de légitimer les choix d'enseignement faits en classe, dans les programmes, pour dire on s'inspire de ce qui se passe du côté du chercheur, mais c'est pas du tout dit que le chercheur il se reconnaisse dans ce que nous on va étiqueter dans la démarche d'investigation. Et puis c'est pas forcément une seule démarche, on dit là on unifie, mais est-ce qu'il y a légitimer à unifier tout derrière ce terme, est-ce que les choses sont pas bien plus variées et diverses que l'expression le laisse penser, et que de toute façon visiblement c'est pas clair comment on va tout définir. Donc vous disiez c'est une même étiquette pour essayer de montrer qu'il y a peut-être une analogie entre ce qui se passe du côté de la pratique mathématique en résolution de problèmes, ce qui se passe du côté d'une pratique en sciences physiques avec la démarche expérimentale, mais voilà, et un des points communs, c'est voilà, la volonté d'attraper ce que serait la pratique du chercheur en maths, ce qui serait la pratique d'un physicien dans un labo. C'est une volonté, c'est pas dit qu'on y arrive. T'es pas d'accord, Sylvie ?
Non, enfin oui et non. Je suis pas d'accord parce que je trouve qu'il y a un problème épistémologique derrière ça, qui est que les sciences expérimentales se sont pas tout à fait construites comme les maths, et que vouloir unifier à tout prix, déjà il faut se dire est-ce que c'est possible, est-ce qu'on peut et à quelles conditions. Donc moi je mettrais un bémol. Et puis si vous reprenez les étapes que j'avais mises, alors peut-être ces étapes elles sont pas dans l'ordre, elles sont pas tout ça, mais il me semble quand même qu'il y a de sérieuses questions autour de ces étapes, notamment la question de il faudrait que je les reprenne, faire des hypothèses tout de suite, enfin quelle est la place de... Et puis quelle est la place du modèle ? Je suis étonnée que les physiciens vous réagissiez pas sur la place du modèle et tout ça. Non ? Enfin, je sais pas.
La question.
Non, mais là c'est pas la question.
C'est la question parce que on essaye de différencier résolution de problème et démarche d'investigation. Et moi, je trouve qu'il faut différencier, que c'est pas la même chose. Enfin, pour de multiples raisons. Enfin, je sais pas. Non ?
Enfin, moi, j'avais une première remarque à propos de résolution de problèmes en physique. Alors, c'est vrai que des fois, il me semble qu'il y a deux types de problèmes. Il y a ceux qui correspondent à un obstacle, effectivement, mais souvent, dans les démarches qu'on voit proposer en classe, il y a simplement un enrobage. Et le problème, il peut être technologique ou il peut ne pas correspondre du tout à un obstacle. Donc, il y a cette première chose. Et on fait une démarche dite d'investigation dessus. Ça, c'est la première nuance. Je vous passerai pour répondre. Et par rapport à démarche d'investigation, moi je trouve que c'est une formalisation, je trouve que c'est une démarche d'enseignement. L'idée que la démarche d'investigation puisse être rattachée à une démarche de chercheur, oui, c'est peut-être porteur, peut-être à quelque chose en lien avec apprendre, avec l'apprentissage des modèles d'apprentissage, peut-être aussi. L'idée que ça sert à motiver un peu les élèves, peut-être aussi. Enfin bref, cette démarche d'investigation, c'est à peu près, j'allais dire, tout et presque n'importe quoi, enfin, de mon point de vue, quoi. Et dire que ça ressemble à de la recherche, non, quoi. Enfin, c'est souvent...
C'est pas ce que j'ai dit.
Je brode autour des choses qui ont été proposées. Donc, j'explicite un peu, je réponds un peu à la question à titre personnel, quoi, voilà.
Enfin, quand même, enfin, je veux dire, l'idée de la démarche d'investigation, c'est quand même de construire des éléments de connaissance, quand même, des éléments de vérité. Et donc là, moi, il y a quelque chose qui m'a parlé tout à l'heure, quand dans le diaporama de mathématiques, vous avez remis le point sur, vous savez, ce point du programme qui était recité depuis 1985 à 95. Parce que là, j'y vois finalement un point commun avec la démarche d'investigation en sciences physiques, dans l'enchaînement justement des différentes phases d'activité dans la classe, quoi. Je ne sais pas si vous l'avez là, mais.
Oui. C'est ça ?
Non, c'était avant.
C'était peut-être.
Ça, c'est pour les maths ?
Oui.
Non, c'était pour les maths. Hein. Mm-hmm. C'était bref.
C'était
voilà,
avant.
Voilà, je crois que c'était.
C'est ça ?
Oui, c'est ça, il me semble. C'est cette idée qu'il y a les connaissances qui vont être remobilisées pour être réinvesties, etc. Et donc, c'est vrai que dans ce qu'on constate dans finalement sur les sites académiques ou sur certains manuels, enfin, je veux dire, c'est finalement des démarches d'investigation, c'est surtout c'est d'un point de vue technologique, c'est des méthodes, quelle est la méthode qu'on peut mettre en place, quelle expérience on peut mettre en place pour pouvoir trouver une solution. Et donc, ça en reste souvent en termes de propositions, de montage, enfin bon. Et c'est finalement assez pauvre quand on regarde finalement ce qui est mis en jeu. Et donc là où ça devient intéressant, par contre, c'est quand on va pouvoir faire une investigation, pas simplement sur les méthodes, mais sur les modèles eux-mêmes. C'est-à-dire quand on va pouvoir, à travers justement, à partir d'un noyau de connaissances, émettre un certain nombre de propositions qui vont pouvoir enrichir ce noyau à travers justement toute une réflexion. Et là, on retrouve finalement le point commun avec les mathématiques, c'est qu'on va bien pouvoir aussi donner finalement des tâches aux élèves, les mettre en situation de réaliser certaines tâches et arriver finalement à une production qui va pouvoir être validée, confrontée aux autres, confrontée finalement au savoir à travers des critères de pertinence et de cohérence, exactement comme ça l'est dit là. Et ça, c'est possible en sciences physiques. Et dans une démarche d'investigation, on peut le faire fonctionner. Et donc c'est là que je vois moi les points communs, c'est là que je trouve une identité commune. Sinon effectivement l'enrobage du canevas, moi j'y crois pas trop non plus. Alors après effectivement ce que dans la démarche d'investigation, ça introduit quand même ce qu'on avait comme on dit tout à l'heure, c'est que c'est pas simplement une démarche expérimentale. C'est-à-dire que ça introduit l'idée qu'il y a quand même aussi tout un travail qui peut être un travail documentaire, qu'on va pouvoir aussi passer par des phases d'observation, des phases d'expérience, d'expérimentation, de simulation aussi, on n'en parle pas, mais aussi ce qui font partie de l'activité scientifique. Et après, ça va dépendre de la nature des activités qui vont être menées, ou, suivant les champs sur lesquels on va se trouver, il y aura d'abord la simulation, qui sera à nouveau confrontée à la réalité, s'il y a adéquation entre simulation. Enfin, je veux dire, après, il y a des méthodes qui sont propres à différents champs, mais en tout cas, ça permet de mettre l'accent sur le fait que c'est pas simplement c'est pas que par l'expérience qu'on peut aller à la vérité. Voilà. C'est ça que je vois dans la démarche d'investigation.
Des réactions, on passe à la question suivante.
Dernière réaction, c'est le mot aussi, investigation. Moi, je me pose cette question-là. Pourquoi, si c'est qu'une démarche, je veux bien accepter le fait que ce soit une démarche pédagogique finalement. Pourquoi ça ne s'appellerait pas démarche d'apprentissage ou démarche d'enseignement? Et pourquoi ça s'appelle investigation? Moi, c'est ça qui me... Bon. Bon.
On
passe à la question suivante. J'y vais. Ça, c'était moi qui avais répondu. Alors, travailler sur le lien entre activité et institutionnalisation, c'était ce que j'avais mis dans les conclusions de la partie que j'ai travaillée. Alors, moi, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup, à la fois d'un point de vue de formation et à la fois d'un point de vue de chercheur. Il me semble que ce qu'on voit très souvent dans les classes, et ça je suis à peu près sûre que vous avez déjà vu ça dans tous les pays, enfin je pense que ça doit être assez classique, ce qu'on voit souvent c'est qu'à force d'insister auprès notamment des jeunes enseignants sur il faut en gros, hein, je vais vite, il faut plus faire de cours magistral parce que bon... ce qu'on fait avec un cours magistral, bon, c'est limité, etc. Donc, il faut plus faire de cours magistral. Il faut apprendre par la résolution de problèmes. Il faut, etc., mettre l'élève en activité. Puis là, je ressors tous nos programmes, par exemple. Donc, on a bien introduit l'idée qu'il fallait, alors ensuite, faire des activités. On les retrouve dans les manuels. Et qu'est-ce qui se passe dans la pratique, très souvent, dans la pratique de la classe, c'est le prof propose une activité plus ou moins intéressante, plus ou moins problématique, plus ou moins tout ça. Et puis, ça se termine en « bon, bah, très bien, vous avez terminé l'activité, fermez votre cahier, et puis maintenant, on fait le cours. Hein, » ça se passe très, très souvent. Enfin, chez nous, c'est très, très souvent qu'on voit ça. Et donc, il y a nécessité de travailler ça et nécessité de faire comprendre qu'il faut travailler ça. Et donc, moi, je répondrai à cette question-là. Moi, ça me fait un peu penser quand même à la distinction que fait Piaget entre réussir et comprendre. C'est-à-dire réussir quelque chose, faire quelque chose dans l'action, et puis accéder à une connaissance. Et certes, Piaget a dit « on apprend en faisant par l'action et tout ça », mais il n'y a pas que de l'action matérielle, il y a de l'action et puis il y a de l'objectivation, etc. Donc moi, je lis cette question de lien entre activité institutionnalisée à réussir et comprendre, ou une autre façon de le dire, à faire dans l'action, mettre en œuvre dans l'action et objectiver ce qu'on a pu apprendre ou ce qu'on a pu faire. Vous voyez, donc c'est à mon avis un changement de niveau. Et moi, je verrais deux niveaux. Donc, c'est passer de la réussite d'une activité singulière, parce que l'effet pervers que ça a, ce que je disais, on fait l'activité, on ferme son cahier et tout ça, c'est que les élèves, ils arrivent parfaitement à faire l'activité. Hein, donc, ils sont bien dans la réussite, dans la conformité. Mais après, qu'est-ce qu'ils ont appris de ça, hein? Et ou bien, comment est-ce que le prof peut se servir de cette activité, de ce qui a été fait, comme d'un levier pour donner le savoir, dispenser le savoir, si on peut le dire comme ça. Donc, moi, je pense qu'il y a deux niveaux de lien. C'est de la réussite de cette activité-là, de ce problème-là singulier. Quel premier niveau de généralisation je peux faire? Et ça, je pense que ça passe par des demandes de formulation aux élèves, de formulation, de discussion entre élèves, etc. Et ça, si vous regardez, par exemple, dans les manuels, les activités qui sont proposées, il n'y a pratiquement jamais cette demande de formulation. Hein ? Ou alors, c'est éventuellement des trucs style qu'observes-tu ou tout ça, sur lequel on peut observer plein de choses. Et puis, deuxième niveau, on va passer cette fois-ci, alors, en plus, pas forcément de cette activité-là, mais de peut-être plusieurs activités d'introduction, à enseigner, au savoir explicité, au savoir reconnu dans la classe, etc. Et je pense que c'est vraiment tout ce mouvement-là qu'il faut apprendre à développer chez les jeunes professeurs, voire chez des anciens aussi. Hein. C'est quelque chose, à mon avis... Alors, soit c'est très difficile et on n'arrive pas, soit on n'avait pas pris conscience que c'était aussi important et du coup, en formation, on l'a passé sous silence, comme si ça allait de soi. Voilà. Ou bien il y a des résistances à ça. Enfin, bon, je sais pas d'où ça vient. Enfin, moi, je vois pas bien... Pourquoi c'est si difficile? Mais en formation, il me semble que c'est difficile. Enfin, je ne sais pas si vous partagez ça pour ceux qui sont très impliqués dans la formation. Je ne sais pas, il y a des...
Juste un petit commentaire. Ouais. On dit réussir et comprendre, mais dans une classe, il y a beaucoup d'élèves qui ne réussissent pas à l'activité. Et je pense qu'il y a aussi... pas réussir et quand même comprendre. Et qu'on a des observations et où effectivement, ce n'est pas parce qu'on a raté qu'on ne peut pas comprendre ensuite.
C'est vrai.
Et que ça veut bien dire que s'il y a une erreur ou si ça s'est pas passé comme on voulait, il faut bien qu'il y ait un travail fait pour quand même comprendre. Mmh,
c'est vrai aussi. Mais c'est ce qu'on voit aussi souvent, c'est
que même si on a réussi, c'est pas un gage
pour
qu'on a
compris. Tout à fait.
On passe à la question suivante pour avancer. Peut-on modéliser l'apprentissage et l'enseignement? N'est-ce pas contraire à la différenciation, et l'individualisation de l'enseignement? Je crois qu'on peut dire qu'on a eu du mal à comprendre. Enfin, à faire le lien entre modéliser l'enseignement et l'apprentissage et d'autre part, la question de la différenciation, de l'individualisation de l'enseignement. Est-ce qu'il y a des réactions
Sinon, on peut dire qu'est-ce qu'on a. C'est vraiment des pistes, là, parce qu'on n'était pas très tellement sûr d'avoir compris comme il fallait comprendre. Mais en essayant de faire un lien entre les deux, et que la première idée, c'est que modéliser, c'est pas forcément uniformiser. C'est-à-dire, on a envie de répondre oui, on peut modéliser l'apprentissage et l'enseignement. Hein. Je veux dire, il n'y a aucune raison que quoi que ce soit résiste à l'idée de modélisation. Ça ne veut pas dire qu'on aura des modèles ou très performants qui permettent de prédire ou d'expliquer ou de dire comment faire, mais on peut toujours rentrer dans une démarche de modélisation et l'activité d'apprentissage, d'enseignement va pas échapper à cette emprise scientifique. Après, quelle est la conséquence du côté de la différenciation, de l'individualisation, c'était pas forcément clair. Et l'idée, c'est que voilà, modéliser, c'est pas forcément uniformiser. Que les modèles qu'on va construire, ils ont des domaines de validité qui sont vrais pour des élèves génériques ou pour que certains élèves, et ils sont pas vrais pour d'autres, ou ils vont pas, ils ont un domaine de validité. Donc individualiser, c'est essayer de s'adapter à chaque élève, à chaque individu. Donc on n'est peut-être pas forcément aussi du côté théorique. Que les enseignants disposent de plusieurs modèles plus ou moins implicites. Et s'ils se disent qu'il faut et qu'on peut différencier et individualiser son enseignement, ça veut dire qu'ils ont une certaine reconnaissance de fonctionnements différents chez les élèves ou d'attentes ou de nécessités différentes. Ça veut dire qu'il y a des modèles derrière chaque enseignant et pas dans la tête de chaque élève. Et donc, ça veut dire qu'il y a des modèles intermédiaires qui sont là, plus ou moins explicites, plus ou moins disponibles. Voilà, et ça va, notre réflexion, elle va pas bien plus loin, mais de l'autre côté, en fait, aussi, on avait envie de dire qu'il y avait plusieurs approches de la différenciation et de l'individualisation. Et qu'il y a, pouvait y avoir une approche qui était de faire un diagnostic sur les connaissances disponibles chez chaque élève et là, le comportement ou les attentes qu'on pouvait avoir de chaque élève et donc de proposer des activités différentes, différenciation, pour ces différents types d'élèves qu'on aura reconnus, plus ou moins en acte ou liés à des modèles ou parce qu'on a une idée a priori de ce qui est possible de qui se passe chez les élèves. Mais il peut y avoir aussi une différenciation ou une individualisation qui consiste à proposer la même activité à chaque élève en sachant que cette activité va pouvoir être démarrée, comprise, la situation va pouvoir être abordée de façon différente parce qu'on aura des points de vue différents. Et je pense que là, pour faire un glissement sur la formation de formateurs, on vous propose les mêmes activités en sachant bien que vous avez des profils assez différents, mais que quelque part, à travers la même activité, vous allez pouvoir vous en saisir avec avec vos compétences et votre profil à vous. Et donc, c'est une façon quand même de proposer quelque chose de commun mais appropriable et qui permet une individualisation et une appropriation par chacun d'entre vous. Donc voilà, c'était compliqué hein, quand même. On était un peu. Est-ce que vous voulez ajouter des choses? Je me rappelle plus qui c'était qui avait quel groupe ou c'est voilà. J'ai pas assisté à la discussion qui a suscité. C'était ouais. Donc peut-être. Est-ce qu'on a rien compris?
Le micro.
Est-ce qu'on n'a rien compris à la question ou est-ce que... Ah oui.
Non, je pense que elle se pose dans le contexte d'une classe aussi. Voilà, parce qu'en fait, du point de vue de l'enseignant, avec une classe de seconde, avec 35 élèves, ils ont du mal à voir de quelle façon ils peuvent effectivement individualiser leur enseignement. Donc après, c'est vrai que ça relève des théories de l'apprentissage, mais quand on passe à la pratique, c'est là qu'on pose la question, est-ce que toutes ces hypothèses qu'on fait sur les apprentissages, elles sont transférables après dans la classe?
À la pratique de classe.
Dans la pratique. C'est un petit peu ce problème-là.
Vas-y. C'est autre chose. Alors ça, c'était une question.
La question qui était posée en partie ce matin, est-ce que ces hypothèses, vous les retrouvez dans la pratique ou pas, et comment elles sont modifiées, en quoi, par quelles contraintes, quoi.
Il est clair que sur une classe de seconde à 35, on va peut-être pas pouvoir individualiser, donner un travail à chacun. Par contre, au niveau de la différenciation, il y a dans les modalités d'action du prof qui va notamment gérer toutes les phases de conclusion après des travaux peut-être que individuels dans les groupes. Le simple fait de ramasser certaines copies à un moment donné, de les mettre en évidence, de travailler sur les erreurs qui ont été faites par certains, et ça dans un ordre qu'on aura choisi au moment de l'exposé, on est dans un mode de différenciation aussi d'une certaine façon. C'est-à-dire que on va servir, enfin, on aura bien fait la même activité, on se sera servi de ce que font les élèves, et puis on essaiera de. L'idée, c'est quand même d'amener la classe en entier, mais dans la façon de gérer, on va bien réussir à différencier un peu là. Enfin, c'est pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire là. Si.
Peut-être juste pour ajouter quelque chose, c'est qu'effectivement, il y aura peut-être une différenciation dans l'appropriation, mais. Bon, c'est peut-être aussi pour ça que depuis 30 ans, on ne voit pas trop les pratiques évoluer, parce que ça semble assez difficile, finalement, dans certains contextes, d'individualiser ces pratiques, je pense. En fait, c'est...
Mais est-ce que c'est une exigence institutionnelle d'individualiser ces pratiques ?
Bah, on n'arrête pas de parler d'accompagnement personnalisé, d'aide individualisée.
Ouais, c'est pas tout à fait pareil.
Oui.
Non, dans les formations au PAF, on a différencié son enseignement, ouais. Individualisé. Je veux dire, on peut pas dire que c'est pas une demande. Ah, du coup, là, voilà.
Justement, nous l'année dernière, on a suivi la formation au PAF sur la différenciation, et justement, un des écueils de la différenciation, dans le cadre du groupe classe, ça peut être peut-être différent en aide individualisée justement ou dans d'autres moments, mais dans le groupe classe, un des écueils, c'était justement d'éviter l'individualisation, c'est-à-dire, enfin, je reprendrai vraiment ce que tu as dit tout à l'heure, le fait que on part d'une activité commune, peut-être on peut apporter des aides différenciées à certains élèves en fonction de ce qu'on connaît de l'élève ou de ce qu'on a évalué comme prérequis, etc. Mais par contre, on est dans quelque chose de commun et on va emmener le groupe classe vers une notion commune. Et on n'est pas dans des choses où lui, il a 15 questions, mais bon, il va rien réussir à construire, mais plutôt travailler sur les erreurs de certains, apporter une aide peut-être d'une certaine sorte à quelqu'un, puis d'une autre sorte à un autre, pour finalement arriver à une notion commune, voilà, l'idée qu'on se mette d'accord dans le groupe classe pour sur telle ou telle chose.
Il y avait une question là de ce côté.
Je voulais réagir en différenciant.
Je voulais juste dire que individualisation et différenciation ne signifient pas la même chose pour moi, et que autant on pousse les enseignants à différencier, autant on leur dit d'éviter d'individualiser leur enseignement, sauf, comme vous dites, dans des conditions particulières. Donc je crois que c'est dommage de mettre les deux termes côte à côte.
Oui, un enseignement individualisé, c'est autre chose.
Bon, on passe à la suite. L'observation a-t-elle un rôle en mathématiques ? Pourquoi distinguer si nettement observation au sens expérimental et expérimentation en mathématiques ? Alors, je pense qu'il n'y avait pas une volonté de séparer les deux. Je vais me tourner vers mes collègues qui ont fait l'exposé. Là, pourquoi distinguer ? J'imagine que c'est à partir des exposés. Donc, c'est un effet des exposés, mais qui n'était pas voulu. Là, je prends la parole pour mes collègues. Et en fait, on peut parler d'observation et d'expérimentation en mathématiques et en sciences expérimentales. Mais peut-être que le sens où ça ne pointe pas tout à fait les mêmes choses. Alors, est-ce que vous...
C'est 6 heures.
C'est 6 heures. Alors, on passe à nos réponses. D'abord en sciences expérimentales. Bon, je prends la parole, mais éventuellement tu veux dire, Patrice ? Non ?
À titre d'information, mais c'est des choses que vous savez. C'est vrai que l'observation, bon, on a simplement pointé le fait qu'elle était généralement pilotée, et même plus que généralement, par tout ce qui relève du champ théorique, théorie modèle, quoi. Avec cette idée qu'on observe que ce que. Ce que permet de voir le modèle qu'on a de la situation qu'on observe, quoi. Alors, il arrive des fois que qu'on voit des choses qui sont inopinées et pas liées à ce sur quoi on est en train de travailler. Et donc, à ce moment-là, ça devient quelque chose d'intéressant dans la mesure où on n'a pas les modèles pour l'expliquer. Mais bon, voilà, disons que l'observation différente de l'expérimentation, oui, dans le sens où l'observation est pilotée par un arrière-plan théorique, quoi.
Alors, après, en mathématiques, c'est la même question, hein. Mais en mathématiques, on situerait plutôt l'observation à l'intérieur de la démarche expérimentale. Et l'idée, moi, je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord, hein, mais on n'observe que ce que l'on a provoqué en mathématiques. Il n'y a pas cette référence à la réalité qui fonctionne indépendamment de celui qui observe. En mathématiques, les choses n'existent que parce qu'on les a construites, disposées, et qu'on les questionne et qu'on les agite. Donc, alors, est-ce que c'est une différence fondamentale, finalement, vis-à-vis de l'observation ? Et on parlerait plutôt de reconnaissance que d'observation, par exemple dans les idées de reconnaissance de forme ou d'analyse d'une figure, et on observe les sous-figures, en plus, en fait on les identifie ou on les reconnaît. Et puis on l'a aussi, alors du coup on bascule dans la pratique de classe, dans les formulations assez typiques qu'on voit nous, observe ce qui se passe quand tu fais ça ou observe ce que tu as obtenu. Et là, peut-être que je peux vous passer la parole. Vous allez avoir envie de réagir vis-à-vis de ces... Voilà, où est-ce qu'on l'a situé. Donc, en fait, l'observation, elle a un rôle en mathématiques. Alors, est-ce que c'était ça que vous vouliez faire sortir en posant la question ? Là, je me rappelle que c'était ce groupe-là, là-bas. C'était à propos de cette injonction « observe ». Tu as bien observé. De toute façon, on a tellement construit pour qu'ils observent. Les pauvres, ils ne peuvent pas faire autre chose qu'observer ce qu'on voulait, mais... Ou est-ce que c'était à cause de la façon dont finalement ça a été présenté ?
On avait l'impression qu'il y a un moment dans l'exposé de ce matin.
Ah, ce matin.
Le terme observation,
il était évacué de la pratique mathématique du fait que finalement la pratique mathématique, elle ne se base pas sur le concret. On n'observe que le concret, donc on ne peut pas observer un phénomène mathématique. Et puis ça nous gênait un peu dans le sens où, quand on fait par exemple la géométrie, je ne sais pas, mais on peut dessiner des triangles et puis observer que la somme des angles s'approche toujours de 180 degrés. Et là, il me semble qu'on est dans l'observation.
Observer.
Alors, voilà, la question, c'est pourquoi évacuer le mot observation de la pratique mathématique ?
Mais t'observes vraiment que des triangles, dans la somme des angles, ça fait 180 degrés ?
J'observe, ok, j'observe en mesurant, quoi. Mais voilà, on avait pris un autre exemple, c'était on trace les trois hauteurs d'un triangle et puis on observe qu'elles ont l'air d'être concourantes.
On tombe sur le qu'observes-tu. Il faut que l'élève réponde qu'il se coupe en un seul point. On le voit hein, dans plein d'activités, mais est-ce que c'est...
Est-ce que c'est vraiment une observation ou est-ce que c'est...
Toi, la question que tu poses, ça veut dire... C'est pas une observation pour toi, le fait qu'on mesure
sur le triangle, moi, jamais je dirais observe que la somme des angles, non. Sur les médiatrices, oui, ça se discute plus, mais en fait, tu fais une conjecture quand même, non ?
Non, la conjecture, c'est la généralisation de tes observations. Si tu fais un triangle et que tu traces les trois hauteurs,
ouais, d'accord.
Je ne sais quoi, et que tu regardes ce qui se passe.
Oui, c'est vrai.
Ouais.
Et la conjecture, ce serait, est-ce que dans tous les triangles, c'est comme ça ?
Par exemple, dans l'étude de la symétrie orthogonale en sixième, la méthode de pliage, ça passe nécessairement par une phase d'observation. On met des points, on pique à deux, et puis on déplie, on dit qu'est-ce qu'on trace, et puis on observe que les deux points, si on les joint, on est sur la médiatrice en mesurant et autres. Donc on passe d'une phase observation pour préparer la modélisation de la chose. Donc, je crois que l'observation ne peut pas d'emblée être exclue en mathématiques.
Oui, parce qu'on travaille sur des objets matériels. Voilà,
on travaille sur des objets matériels. On est donc des fois obligé de passer par une phase d'observation. L'introduction de la géométrie dans l'espace par l'étude des solides, on passe d'abord là aussi par des observations. Du physique.
Oui, mais c'est toujours pareil. C'est quand même des observations qui sont, qui sont pilotés par ce que tu sais, c'est-à-dire tu observeras des droites perpendiculaires parce que tu connais la notion de droite perpendiculaire, quoi. Oui, donc ça passe par les sens, c'est ça qu'on veut dire ?
Non, non, parce que par le fait qu'on l'a provoqué et qu'on a des connaissances qui vont permettre de le voir.
Mais que ça passe aussi par les sens, puisque tu mobilises tes sens.
Mais il ne me semble pas qu'on observe nécessairement des objets concrets en mathématiques. Enfin, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, est-ce qu'un nombre rationnel peut toujours s'écrire comme une somme de fractions égyptiennes ? Bon, ben voilà, on en prend un, on essaye, et on y arrive plus ou moins rapidement, donc on observe que sur ce cas-là, ça marche. Bon.
Une conclusion provisoire.
Oui, oui, à cette heure-ci, je pense.
Il y en a encore, il y a 7 questions, hein, donc il y en a encore 3. Quelle différence peut-on, doit-on faire entre activité, exercice, problème, cours, théorie ? Donc on ne savait pas s'il fallait distinguer les 5, mais on s'est dit qu'il fallait distinguer les 3 premiers puis les 2 suivants. Et puis on va vous donner nos réponses, puis vous, en fait ça vous fait plus réagir nos réponses que si je vous demande comment vous répondez. Donc à nouveau on était en train de se dire qu'on n'avait pas bien envie de en fait que c'était très le sens de ces mots était lié à un contexte et que hors du contexte on savait plus bien définir et dire pourquoi c'était différent et que en fait ça évoquait le contexte pratique lié à l'usage des manuels en particulier ou à la pratique de classe et qu'on avait une activité on distinguait alors l'activité ça désignait ce qui était fait avant le cours dans une espèce de pratique actuelle des choses hein. Les exercices étaient faits après le cours, c'était plutôt pour s'entraîner et pour mettre en œuvre ce qui a été montré dans le cours. Et puis les problèmes, c'est des exercices plus complexes. Voilà. Mais que, en dehors de ça, on avait quand même beaucoup plus de problèmes à distinguer activité, exercice, problème.
C'est-à-dire, un même objet peut être les trois, à quelque chose près, suivant à quel moment il est voilà. Posé. Hein, ça, on peut à peu près.
Je crois que c'est par rapport à l'objectif qu'on vise.
L'objectif d'enseignement.
Oui, c'est ça, l'objectif d'enseignement.
D'enseignement. Donc,
le même problème peut jouer à la fois les trois rôles
oui.
Par rapport à l'objectif que l'on s'est assigné d'enseignement.
Tout à fait.
Et ensuite, donc, il fallait distinguer deux dimensions qui étaient d'un côté le type de moment dans l'enseignement dont l'objectif, est-ce que c'est pour introduire une nouvelle notion ou est-ce que c'est pour évaluer ou est-ce que c'est pour mettre en pratique ou répéter, comme on disait dans notre groupe ce matin, avec des guillemets pour bien sentir que c'est pas une répétition plate et non problématisée, mais un réinvestissement et un test de du champ dans lequel c'est possible d'utiliser cette connaissance. Et où sinon la nature du savoir en jeu dans ces moments, c'est-à-dire que il y a des savoirs beaucoup plus pratiques, techniques, et puis d'autres beaucoup plus théoriques, et qu'on allait pouvoir les retrouver ces savoirs à l'intérieur de problèmes ou d'exercices ou d'activités dans des moments différents, et que dans un exercice ça pouvait être des exercices pour des savoirs très théoriques ou au contraire des choses beaucoup plus techniques et du côté de la pratique. Bon là, ça va devenir un peu flou pour moi. Mais qu'on allait pouvoir distinguer ces deux dimensions à l'intérieur des activités, des exercices, des problèmes. Ensuite, voilà, donc un problème comme un cours ou un exercice peuvent être très pratiques ou très théoriques. En fait, l'un n'implique pas l'autre. Et après, je sais plus pourquoi on était avec une proposition en physique. C'est finalement pas bien différent des maths, non ?
Ouais. Simplement, pour dire que le terme activité en physique n'a pas le même sens qu'activité introductive, etc., en mathématiques. Et que donc, c'est simplement un moment de l'enseignement. Il y a des activités dans un cours de physique et qu'on peut repérer une activité par les savoirs qu'elle permet de générer, quoi, tout simplement. C'est simplement une précision de vocabulaire, puisque tout ce qu'il y a autour, au-dessus, est aussi pertinent. Mais on n'a pas ces soucis entre activité, exercice, problème, quoi, dans le vocabulaire.
Mais est-ce que c'est un souci pour nous, en maths, je sais pas.
C'est un souci pour quelqu'un.
Oui. Hein.
J'ai répondu à la question.
En tout cas, moi, ce qui me paraît important, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire, c'est qu'un même exercice peut, suivant le moment où il est posé, être un problème, être une activité et tout ça. Alors après, avec peut-être des différences d'énoncés, etc., mais ça ne caractérise pas, ces termes ne caractérisent pas l'exercice en lui-même. l'idée mais son de l'exercice, rôle. Mais son rôle.
Alors ensuite, ah ben là, je crois ça, qu'on a fait carrément Joker.
Ouais, là, on a fait Joker.
On nous a présenté trois définitions différentes des mathématiques. Après, j'ai pas fait l'exposé, mais finalement, c'était pas vraiment des définitions. Hein. C'est au sens, ça ne caractérisait pas les mathématiques, et les identifiait pas de façon complète. Donc après, la remarque, c'était que j'en suis un peu déçue. Les maths, c'est pas aussi restreint que ça. C'est beaucoup plus riche, beau et coloré. On va être d'accord, mais du coup. C'est pas des définitions, et qu'est-ce qu'on rajouterait pour mieux caractériser voilà.
Merci. C'est justement parce que je trouvais les trois, c'était assez large, mais pourtant je les trouvais un peu sec. Et comme j'adore les mathématiques, pour moi c'est toute une philosophie, c'est toute une nature, c'est l'univers, c'est une culture, c'est une langue, c'est plein de choses qui lient ça et ça, et qu'on peut retrouver partout, donc voilà.
Pour comprendre l'univers.
C'est bon.
Ouais, ouais. C'est bon. Non, mais il y a la question 7. Alors, fallait la mettre à la. Bah ouais, je suis désolée. Vis-à-vis des collègues qui ont posé la question 7. On n'a pas répondu à ça, si.
Ah bah, je l'ai pas vu, moi. Moi, je l'ai pas vu.
Je crois qu'on l'a fait sauter, en fait. Hein. Non, mais on a déjà eu de la peine à répondre aux autres et à voir qu'est-ce que ça voulait dire ou pas. Dans la démarche d'investigation, comment développer une culture commune. Donc là, on a déjà un peu commencé à répondre. Repérer les éléments transposables en termes de pratique et d'organisation, tout en respectant l'épistémologie de chaque discipline. Si on avait dit des choses.
Bah oui, bon, on l'a déjà dit.
Une démarche d'investigation telle que présentée dans les programmes, c'est plutôt une position pédagogique qu'épistémologique. Ouais. Est-ce que ça. Ouais.
Oui, oui.
Et puis, ah oui, ça, c'est un point. En fait, il n'y a pas forcément d'unicité des démarches d'investigation, d'un point de vue épistémologique. On parle de la démarche. Il y en aurait plutôt plusieurs. C'est en train d'évoluer, ça, au niveau du discours en France, en tout cas.
Du discours institutionnel ?
Voilà.
Moi, je voulais rajouter un dernier éclaircissement sur les deux exposés. Alors, peut-être, si vous n'êtes pas posé la question, mais certains l'ont peut-être posé. Entre ce qui a été présenté ce matin par Didier sur l'épistémologie de la physique, les questions de modèles, d'objets, événements, théories, modèles, etc. Et ce qu'on a présenté, nous, en maths, il n'y a pas d'opposition à ces deux visions différentes des choses. Et nous, on a essayé en mathématiques, enfin la partie qu'il y en a à développer, d'aller regarder un peu ce qui se disait sur l'expérimentation en mathématiques, en mathématiques, mais ça ne s'oppose pas du tout à ce qu'a dit Didier le matin. On a simplement un peu regardé ce qui était écrit, voilà. Alors c'est vrai que c'est pas la même chose et tout, mais on n'en tire aucune conclusion.